Nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée, une présentation de Reine Fabienne Dotiga. Reine, bonjour.
Bonjour Ursula, bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Retour au calme après plusieurs attaques d'éléments rebelles dans le nord-ouest du pays. Témoignage d'un habitant d'Ondim à suivre au début de ce journal. La justice fait le bilan de son travail l'an passé, un bilan mitigé selon les professionnels du droit. Nous y reviendrons avec Inès Lorongopo. Quel avenir pour les enfants soldats une fois démobilisés? Nous entendrons le témoignage de Carlos, l'un des 70 enfants recueillis par l'ONG Espérance à Bombari. Cannes au Cameroun, poursuite de la deuxième journée aujourd'hui. À 17h, le Nigeria joue contre le Soudan et à 20h, l'Égypte va rencontrer la Guinée-Bissau. Nous sommes deux pour vous présenter cette édition de la mi-journée. Emmanuel Samboli, bonjour.
Bonjour, Reine Fabienne Dotiga, bonjour à tous. À la une de ce journal, le calme s'installe peu à peu dans le nord-ouest du pays après la série d'attaques des rebelles de 3R.
C'est ce qu'indiquent plusieurs sources locales contactées par Radio Ndekeluka. Selon ces dernières, cet accalmie fait suite au renforcement de la présence de l'armée dans la région. Suivant cet habitant d'Ondim, joint au téléphone par Francis Claver Kala.
Effectivement, la sécurité dans notre localité actuellement est assurée par nos BACA qui sont sur le terrain, qui sont en train de déployer les efforts pour pouvoir assurer la sécurité des populations civiles. Vous voyez qu'il y a eu un incendie de 112 maisons à Zamari et le village Bédo qui se trouve à la frontière Centrafrique et le Tchad a été incendié et reste ces deux maisons. La population de ce lieu-là se sont en déplacement vers ceux qui vont vers Ndoubouri et ceux qui vont vers Benancourt et ceux qui vont vers Kohon. Et il y a plusieurs ceux des Amani qui se trouvent actuellement au niveau de Kounang. Alors, nous demandons toujours au gouvernement de renforcer la capacité de nos forces sur le terrain, car là, ils ont plusieurs difficultés de déplacement. Ces forces-là se déplacent à pied et c'est un problème qu'actuellement la zone attend du gouvernement pour renforcer la capacité de nos forces sur le terrain.
Depuis mi-décembre, les attaques de 3R contre les civils dans les localités d'Ondim et Ngaoundaï ont fait près d'une dizaine de morts et des milliers de blessés déplacés. Les deux otages retenus 15 jours par ces rebelles ont été libérés cette semaine sans obtenir de rançon.
Les partenaires multilatéraux qui appuient le Centrafrique dans la recherche de la paix ont évalué hier la feuille de route définie en octobre dernier par les chefs d'État de la région des Grands Lacs.
Selon ces partenaires, plusieurs défis restent à relever malgré quelques avancées enregistrées, notamment la déclaration unilatérale de cesser le feu par le gouvernement. C'est ce qu'a indiqué Sylvie Baipotémo, ministre des Affaires étrangères, présidente de cette réunion. Elle est avec Jean-Fernand Kouina.
Il en est ressorti, en ce qui concerne les engagements des groupes armés, qu'il reste un processus à mener par la partie angolaise qui a initié des actions de manière à ce que les groupes armés qui ont repris les armes puissent revenir de bonnes intentions et surtout qu'ils puissent renoncer à la violence, revenir dans un processus de paix. L'ensemble des groupes armés n'étant pas encore signataires de ce processus, il faut continuer à mener ces actions. Un nombre de recommandations a été mis en place pour arriver à atteindre cet objectif. Le 15 octobre 2021, le président de la République a déclaré un cessez-le-feu de manière unilatérale. L'objectif de ce cessez-le-feu était de pouvoir continuer à marquer la volonté de la République africaine à être dans une solution de recherche pacifique de la sortie de crise et surtout de pouvoir mettre en exergue que nous avons affaire à des groupes armés qui ne sont pas honnêtes et qui ne respectent en aucun cas leurs engagements. Et nous l'avons vu, parce que depuis, ils n'ont eu cesse que de continuer à commettre des exactions.
Nous l'avons appelé Carlos, de son prénom d'emprunt, il a été enrôlé de force à l'âge de 11 ans par des rebelles.
Entre 2016 et 2018, il a été témoin de meurtres, de viols, de tortures et de pillages perpétrés par ses ravisseurs, le groupe armé UPC. Au micro de notre correspondant à Bambari, Bernard Redial, il raconte comment il a réussi à s'échapper.
Mon camarade et moi revenions de l'école. Nous avons entendu des coups de feu partout en ville. On ne savait pas ce qui se passait réellement. Dans la confusion, mon ami a reçu une balle. Quand il est tombé, je cherchais à le secourir en pleurant. À ce moment-là, des hommes armés sont apparus. L'un d'eux m'a ordonné de me relever. Il m'a remis une arme. Aussitôt, ces hommes m'ont conduit à leur base. Quand je suis arrivé, je n'avais aucune nouvelle de mes parents et je ne savais pas comment m'en sortir. J'étais choqué par le comportement des autres membres du groupe. Ils tuaient, violaient des femmes, torturaient et pillaient les biens des civils. Un jour, ils m'ont envoyé acheter des marchandises. J'en ai profité pour fuir et m'installer sur un site. Je demande à mes concitoyens qui sont encore dans les groupes armés ou qui continuent de faire du mal d'abandonner ce chemin. Il faut repartir à l'école ou apprendre des métiers manuels pour se prendre en charge et aider leur famille.
Carlos a 17 ans aujourd'hui. Il fait partie des 110 enfants recueillis par l'ONG Espérance après démobilisation des groupes FPRC, UPC, Antibalaka. Parmi eux, 50 ont voulu apprendre un métier, les 20 autres de retourner à l'école. Ces ex-enfants soldats ont reçu jeudi dernier des chèvres, des machines à coudre, des moulins de manioc et des fournitures scolaires.
Vous écoutez Radio Ndekeluka, on parle justice à présent. Rennes, comment peut-on évaluer son travail en 2021 dans notre pays?
Le bilan est mitigé selon les professionnels du droit. Si certains notent des avancées du côté des tribunaux ordinaires, d'autres déplorent le manque de volonté politique pour faire tourner la machine judiciaire normalement. Un dossier de Inès-Laure Ngopo.
Si en 2020, l'on cite la pandémie de Covid-19 comme raison principale de la non-organisation des procès et de la poursuite des enquêtes, en 2021, les acteurs judiciaires évoquent d'autres raisons. La question du budget est parmi les principales causes de retard dans les activités judiciaires. À l'inspection générale des services judiciaires, Joseph Bindoumi reconnaît quelques efforts.
Les tribunaux ordinaires ont quand même fonctionné en 2021, mais les grandes sessions qui montrent la splendeur de la justice, du pouvoir de la loi, du poursuivre les criminels et de lutter contre l'impunité par la tenue des sessions criminelles n'a pas eu lieu. Et nous pensons que si cette année nous avons connu un échec de ce côté, en 2022 nous devrons réaliser ces audiences-là pour que notre lutte contre l'impunité atteigne des objectifs.
Selon Amnesty International, dans son dernier rapport intitulé « Un pas en avant, deux pas en arrière, justice en République centrafricaine », le budget national prévoit en effet l'allocation de 20 millions de francs CFA pour l'organisation des sessions criminelles de Bangui, 3 millions pour celle de Boire et 1 million pour celle de Bombari. Malheureusement, le financement de ces assises a été supprimé dans le budget de l'État en 2021. Aucune session criminelle n'a été tenue dans les trois cours d'appel depuis presque 2 ans. Cette suspension faite par le collectif budgétaire de la loi de finances de 2021 est mal appréciée à l'inspection générale des services judiciaires. Du côté du barreau des avocats de Centrafrique, le bilan est positif. Maître Denis Modemadé.
Selon moi, le bilan est positif parce qu'en tant que défenseur des droits et des libertés, je crois que nous jouons des rôles multiformes. Un des nôtres avait été arrêté et nous avons qualifié cette arrestation de pas normale, arbitraire. Et donc, on avait revendiqué, on était en mouvement, on avait prévu des actes à poser pour que de telles choses ne se répètent plus dans l'avenir.
L'homme de la rue n'est pas du tout content des activités judiciaires de l'année dernière. Pour certains Bonguissois, les victimes perdent de plus en plus d'espoir en la justice du pays.
Ce qui m'a déplu, c'est qu'à chaque fois, je vois qu'il y a des grèves au niveau de la justice. Et je me pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour que ceux qui sont de la justice partent en grève.
En ce qui concerne l'affaire judiciaire de cette année 2021, je dirais qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Et si je dis ça ne marche pas, c'est par rapport à mon cousin qui se trouve jusqu'à présent au niveau de Garagba. Il faut que l'État centrafricain puisse revoir encore ses affaires de justice là correctement.
De nos jours là, la justice est en train de faire son travail là dans le bon sens.
Pour corriger les erreurs de l'année dernière, Amnesty International propose, entre autres autorités du pays, de veiller à ce que toutes les personnes suspectées de crimes et d'autres violations soient poursuivies et jugées équitablement à la Cour pénale spéciale, de poursuivre les enquêtes et de veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour permettre l'exécution des mandats d'arrêt.
Dans la suite de cette édition, éducation, les parents d'élèves du village Gbambia, à 7 km de Sibut Centre, ne veulent pas payer les redevances scolaires de leurs enfants.
Conséquence, dans les salles de classe, les élèves sont de moins en moins nombreux. Notre correspondant Innocent Bangadiambi s'est rendu sur place.
À Gbambia, environ 80 enfants étudient dans un hangar sous un toit en tôle. Les trois salles de classe sont séparées par de la paille. Le directeur Gérard Ngwakanja travaille avec 3 mètres par an. Il regrette le comportement de certains parents qui refusent de payer les redevances, même avec des cuvettes de manioc.
Ils n'ont pas vraiment la volonté d'inscrire les enfants. Ils prennent leurs enfants, ils utilisent dans la brousse. Tantôt les enfants vont à la chasse, à la pêche. On a tout dit, j'ai tout parlé aux parents, mais les parents ne veulent pas inscrire leurs enfants.
Pendant que certains de ses camarades sont en classe, Oscar Malimaka, 15 ans, lime sa machette avant d'aller au champ.
J'ai passé 4 ans en classe de CM2 parce que mon père n'a pas payé les frais de concours. Je préfère cultiver le champ et après la vente de produits, je pourrai reprendre le chemin de l'école.
Pour le président de l'APE de l'école Bambia, Henri Nguyombo, les responsabilités sont partagées.
Ce que disent ces enfants est réel, mais il y a certains élèves dont leurs parents ne payent pas leurs redevances. Pour d'autres, les parents ont déjà payé et comme ces enfants sont déjà habitués à la chasse et pêche, c'est pourquoi ils abandonnent les études. Mais le gros problème en est que la majorité des parents ne veut pas payer les redevances de leurs enfants.
Un parent nous confie sous anonymat que l'absence depuis plusieurs années d'enseignants qualifiés décourage les parents de payer les redevances pour leurs enfants et de rémunérer les maîtres parents. Sibut, Innocent Bangas Diambi, Radio Ndekeluka.
Et puis, le ministère des petites et moyennes entreprises et 8 organisations non gouvernementales centrafricaines ont signé hier à Bangui un accord de partenariat.
Objectif de l'accord, faciliter l'accès de ces ONG nationales aux appuis financiers de partenaires internationaux. En contrepartie, le département des PME soutiendra aussi ces organisations. Didier Martial Pabondi, directeur général de l'agence Media Link, s'en explique à votre micro, Emmanuel.
Ce contrat de partenariat, les clauses visent simplement de notre côté en tant qu'entreprise privée à promouvoir en fait notre secteur, à recruter, à créer de l'emploi, à créer aussi de la richesse et à participer effectivement au développement à travers les actions des marchés que nous pouvons avoir. Du côté du ministère, il est de son devoir aussi de soutenir en fait l'action des entreprises, de soutenir aussi le travail que nous faisons. Il était important que de plus en plus qu'il y ait des entreprises centrafricaines qui émergent, qui fassent plus de chiffres d'affaires afin que nous puissions avancer. Le rôle aussi du ministère, c'est de soutenir par exemple les entreprises en créant des liens avec des pays internationaux et aussi des bailleurs internationaux. Le gouvernement est la porte d'entrée en fait des institutions chez nous et donc à eux aussi de parler des entreprises, de nos difficultés, de nos avantages dans les textes pour que nous puissions travailler librement face à toutes les difficultés que nous traversons dans notre pays en tant qu'entrepreneurs.
La page sport de cette mi-journée avec vous. Bienvenue Bielou, bienvenue, bonjour.
Bonjour Rennes, bonjour à tous.
Cannes au Cameroun, deux belles affiches à suivre cet après-midi. Bienvenue Bielou.
Oui Rennes, à 17h, le Nigeria joue contre le Soudan et à 20h, l'Égypte va rencontrer la Guinée-Bissau. Hier, le Sénégal et la Guinée ont fait match nul 0-0. Malawi a battu le Zimbabwe 2-1. Le Gabon a accroché le Ghana à la fin de la rencontre en égalisant le score 1-1. Le Maroc a battu les Comores 2-0. Les détails dans le journal de la CAN à partir de 13h40. Football ici même à Bangui. Un match amical a été joué ce matin au stade du centre technique de Gbangouma. La sélection de la Caisse nationale de sécurité sociale et l'équipe AS Douane ont fait match nul, 0-0.
Nécrologie basketball, bienvenue. Les obsèques du secrétaire général de la fédération Narcisse Claude Dekezandi, alias DKZ. Il doit être inhumé dans les heures qui suivent.
La cérémonie de ces obsèques se sont déroulées au palais des sports à Bangui devant plusieurs amoureux du basketball et des sportifs en général. Le regretté sera inhumé à Kassai. Serge Singabengba, son président, regrette avoir perdu un proche collaborateur.
Nous sommes très tristes parce que nous enterrons aujourd'hui l'un des piliers de la fédération, l'un des piliers du basketball centrafricain qui a donné beaucoup pour la jeunesse centrafricaine. Comme le disait le président de FIBA Afrique Zone 4, il a donné beaucoup pour la jeunesse africaine d'une manière générale. Notre souhait aujourd'hui, c'est qu'il puisse reposer en paix. Et nous, au niveau du bureau fédéral, nous allons tout faire en son honneur pour faire le travail de la renaissance du basket parce que nous devons défendre la mémoire de Narcisse Dekezandi.
Que pourvoit le texte dans ce cas-là si un membre du bureau décède?
Nous avons un secrétaire général adjoint. Au niveau du bureau fédéral, nous allons effectivement prendre une décision pour l'intérim et ensuite une assemblée générale décidera du remplacement éventuel du secrétaire général qui est aujourd'hui décédé.
Par ailleurs, le président de la Fédération centrafricaine de basketball appelle la jeunesse centrafricaine à prendre exemple sur Narcisse Dekezandi.
Narcisse Dekezandi a consacré beaucoup de son temps, de son énergie pour la jeunesse centrafricaine parce qu'il est intervenu plusieurs années durant au niveau de la Ligue de Bangui. Au niveau de la fédération, il a d'abord été secrétaire général adjoint, deux fois secrétaire général, et il commençait un autre mandat avec nous. Nous voulons dire à la jeunesse que rien ne peut se faire au hasard. C'est l'engagement qui paye. Narcisse Dekezandi, à chaque fois, est sorti avec quitus de l'Assemblée générale. À aucun moment, une Assemblée générale n'a pris Narcisse Dekezandi à défaut. Pour ça, nous devons lui rendre hommage, saluer sa mémoire. Nous allons tout faire pour que, en sa mémoire, le basket sorte grandi de cette épreuve.
Des propos recueillis par vous. Bienvenue à l'agenda. Une finale de football pour la paix et la cohésion sociale est prévue demain à Bangui.
La rencontre aura lieu à 7h sur le terrain Bamara vers l'aéroport. Elle opposera la sélection du 3e arrondissement à celle du 5e. Le public est invité à venir massivement assister à ce match.
Handball à Bangui toujours. Des matchs amicaux sont prévus sur le terrain de l'INJS.
Ceci en prélude à la reprise du championnat de la Ligue chez les seniors. Cet après-midi à 15h, Academia reçoit Aïe Saint-Sauveur. Demain à 15h, Ascobra recevra Academia à la Maison des Jeunes des Castors.
Et voilà, ce journal est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Très belle journée à toutes, à vous tous. Restez branchés pour la version Sango.